Good morning. Please join all of us here at CIUT-FM for 1 minute of silence on this special Remembrance Day, 1918-2018. Bonjour. En ce jour du souvenir, je vous invite à vous joindre à moi et l'équipe de CIUT-FM pour observer une minute de silence en ce jour du souvenir spécial 1918-2018. Thank you. Now back to our ongoing programming. Merci. De retour à notre programmation en cours.
The views and opinions expressed on the following program are those of the producers and or the persons appearing on the program and do not necessarily reflect the views and opinions of CIUT-FM.
CIUT 89.5, Toronto. CIUT.
Première guerre mondiale, les caméramens du monde entier ont pris des risques pour tourner ces images. Ils en ont reconstitué certaines. Nous avons rajouté la couleur et le son. November 11, 1918, 11 heures du matin. Ce jour-là, c'est le silence. L'armistice est signé. Clairons et cloches sonnent le cessez-le-feu. Le soldat canadien George Price vient d'être tué. C'est le dernier mort de la guerre.
De 1914 à 1918, près de 80 millions d'êtres humains ont été plongés dans la guerre. Dix millions sont morts, fauchés par les balles, déchiquetés par les obus, brûlés, affamés, dévorés par les poux, les rats, tués par les épidémies nées de la misère. 20 millions ont été blessés. Quelle démence s'est emparée des Autrichiens, des Serbes, des Russes, des Allemands, des Français avec leurs colonies, des Anglais avec leur empire, des Italiens, des Japonais, des Turcs, des Américains. Ils ont de la chance, ceux qui s'en sortent vivants. Mais ils ont perdu leur jeunesse. Ou leur visage. Ou leur raison. Comment le monde a-t-il déchaîné une telle furie ? 1914. Qui sont les hommes de ce temps? Si tranquilles, et pourtant si près de la guerre. Ce sont, pour beaucoup, des paysans attachés à leur terre, leur tradition, leur religion. Ils se sentent en sécurité. Cela fait près d'un demi-siècle qu'il n'y a pas eu de grand conflit européen. Les rentiers peuvent profiter de ce bel été de 1914. René Ferrari, 34 ans, descendant d'immigrés italiens qui ont réussi dans le chauffage, est l'un des premiers cinéastes amateurs. Il pense que le film gardera l'image de son bonheur, qui ne s'est pas si fragile. Avec Jacqueline, sa femme, ils ont 3 enfants. Pierre, Claude et Alain. Et une fidèle bonne, Alphonsine. Ils vivent à côté du chemin de fer. Pour eux, moderne et pratique. Il va partout. Il transportera des armées. Il les emmène au Mont Blanc, escalader la mer de glace, avec une canne et des chaussures de ville. Symbole de l'inconscience des futurs officiers. Vienne 1914. La capitale de l'Empire d'Autriche-Hongrie est décrite par Stefan Zweig. Partout s'ouvraient de nouveaux théâtres, de nouvelles bibliothèques, de nouveaux musées. Partout on allait de l'avant. Qu'est-ce qui aurait bien pu interrompre cette ascension, entraver cet essor qui tirait sans cesse de nouvelles forces de son propre élan? Une merveilleuse insouciance avait gagné le monde. Jamais l'Europe n'avait été plus puissante, plus riche, plus belle. Jamais elle n'avait cru plus intimement un avenir encore meilleur. C'est encore la belle époque. Mais pas pour tout le monde. Les ouvriers travaillent 2 fois plus longtemps qu'aujourd'hui et sont payés 2 fois moins. Les femmes ne gagnent que la moitié de ce salaire de misère. En théorie, les enfants de moins de 12 ans ne doivent pas descendre à la mine. En France, Jean Jaurès est le grand tribun de la classe ouvrière. Il est inquiet. Il sait que dans toute cette Europe de la bonne société, beaucoup de patrons de l'industrie parlent sans retenue d'une guerre qui les débarrasserait des revendications ouvrières. Jaurès dit : votre société, violente et chaotique, même quand elle veut la paix, porte en elle la guerre, comme le nuage porte l'orage. Les industriels profitent de la course aux armements. Les grandes puissances préparent la guerre. Les services militaires interminables forment les hommes à la guerre. La guerre et la mort rôdent sur la planète. Depuis des siècles, les empires se partagent le monde à coups de sabre. Les conquêtes du Royaume-Uni s'étendent de l'Australie au Canada. Celles de la France, de l'Indochine à l'Afrique. L'Allemagne a aussi des colonies, mais veut une plus grosse part du gâteau. Cet État morcelé, la Prusse d'avant 1871, est devenu l'Empire allemand en écrasant la France et en annexant ses provinces d'Alsace et de Lorraine.
l'empereur d'Allemagne, le Kaiser Guillaume II, 55 ans, entouré d'une caste militariste, fait construire une marine de guerre pour surpasser celle de l'Angleterre. Il veut donner à l'Allemagne sa place au soleil. Juin 1914. Guillaume II célèbre le 25e anniversaire de son règne. Il aime parader, mais ils lui font un tabouret pour monter à cheval à cause de son handicap. Né d'un accouchement difficile, il a le bras gauche atrophié. Il le maintient posé sur son épée. Longtemps torturé par les médecins, il a développé un caractère instable, avec des crises de colère imprévisibles. Il est marié avec sa cousine Augusta Victoria. Ils ont la même grand-mère, la souveraine britannique Victoria, qui disait de Guillaume II: c'est un emporté, une mauvaise tête, un prétentieux. Guillaume II vit mal sa parenté avec la famille royale de Londres, si puissante, si dominatrice. Un jour à la chasse, il se blesse et pousse un cri révélateur. Maudit sang anglais. Pour Guillaume II, le Royaume-Uni est une menace depuis qu'avec la France et la Russie, ils forment la triple entente. Cela provoque chez les Allemands un sentiment de...
Want to learn French? Parlez-vous français? Join us every Sunday from 11 a.m. to 1 p.m. on CIUT 89.5 FM or on the internet at ciut.fm or live from our studio. Potpourri Show targets student listeners who want to explore and travel through the francophone world. Each Sunday, our show includes French lessons, news, reports from across the continent, as well as international news flash about Africa, Europe, the Caribbean, and the Indian Ocean Islands, and features music charts and social issues around the world. Lively, upbeat, provocative, and on target. Potpourri Show, every Sunday from 11 a.m. to 1 p.m. in partnership with Radio France International, the French Studies Department, University of Toronto. Our email address, pot.pourri@simpatico.ca.
ONFR, c'est la production web télé du groupe Média TFO dédiée à l'actualité politique de l'Ontario.
Effectivement, il y a des problèmes de transport majeur dans la partie nord de la province.
C'est la seule production francophone d'information et d'affaires publiques dans la province qui suive la nouvelle au-delà du cycle habituel des 24 heures.
Le droit de parole, c'est un droit acquis.
ONFR, c'est d'abord une présence continue sur Twitter. L'information à l'état brut.
Comment ces changements-là sont-ils accueillis dans le nord?
Les nouvelles de dernière heure. Et une communauté d'abonnés de plus en plus nombreuse qui continue à croître de 10 à 15% par mois.
Restez branchés sur notre compte Twitter pour tout savoir.
ONFR, c'est aussi un site web d'information. Une référence quotidienne avec des reportages approfondis.
Il y a bien des questions qu'il faut demander et je pense que c'est des questions que le gouvernement a besoin de répondre.
Des analyses qui font réfléchir, du contenu exclusif.
Et ça, c'est du jamais vu.
Des angles différents de traitement de la nouvelle.
Une situation sans précédent en Ontario.
ONFR, c'est enfin une émission hebdomadaire à la télé et sur le web. Un temps d'analyse et de réflexion pour comprendre l'essentiel de l'actualité politique de l'Ontario. Une tribune crédible où les enjeux les plus marquants à Queen's Park et dans la francophonie ontarienne sont expliqués, décortiqués par une équipe de journalistes chevronnés.
Est-ce que le budget a répondu à ces attentes-là?
Et par le biais d'entrevues et de reportages au cœur de l'action.
Nous abordons tous ces enjeux aujourd'hui avec le ministre de l'Énergie, Bob Chiarelli, qui nous accorde une entrevue exclusive.
ONFR informe et élève le débat sur la scène politique en Ontario.
Bienvenue à ONFR.
J'ai des amis hollandais. J'ai des amis javanais.
J'avoue, j'en ai bavé pas fou.
J'ai des amis au Portugal.
Hola,
j'ai
está?
Des amis au Sénégal.
Du côté gloumoy.
J'ai des amis dans les villes.
Allez les gars, à votre.
J'ai des amis dans les îles.
Anti-goût de miel, anti-goût de fiel.
J'ai des amis proches ou lointains. J'ai des amis dans tous les coins.
Hello.
Bonjour.
Tant que la terre sera ronde, j'irai au
ici
tour du monde.
Là-bas,
voir d'autres êtres humains.
Ailleurs,
ni plus ni moins.
RFI,
RFI,
on en fait tout un monde.
Vous écoutez Potpourri Show sur CUT 89,5 FM. Une émission présentée en partenariat avec le département de français, campus Saint-Georges, le département d'études langagières, campus de Mississauga, à l'Université de Toronto, le Centre de recherche en éducation franco-ontarienne, le CREFO, l'Express de Toronto et Radio France Internationale. Potpourri Show, 30 ans déjà. Toute la diversité du monde sur votre fréquence et sur www.cut.fm ou www.potpourrichaud.com. Soyez des nôtres chaque dimanche de 11h à 13h sur CUT 89,5 FM.
Oui, bonjour mesdames, messieurs et bienvenue à Potpourri Show, une édition un peu spéciale aujourd'hui. Vous êtes en compagnie de DJ Devera, bien le bonjour, ainsi que Sloan Ballan et à la production, l'animation, Eric Adair avec vous jusqu'à 13h sur www.cut.fm. Nous remercions bien sûr nos partenaires Radio France Internationale, TV5 Monde, France 24, magazine Vivre Ailleurs de RFI. Le Réveil, nouveau mouvement des francophones hors Québec, le MOFIF, la comédie française, Cinéplex Cinéma, la fièvre du vendredi soir au Musée Royal de l'Ontario, chaque vendredi. Vous pouvez nous écouter en direct sur www.cut.fm en ce dimanche 11 novembre en direct de l'Arc de Triomphe à Paris. Nous vous ferons revivre les émotions des cérémonies de cette grande guerre 1918-2018, 100 ans déjà. C'est le jour du souvenir, l'occasion de démontrer notre respect et notre gratitude aux membres actifs et aux anciens membres de nos forces armées qui ont sacrifié leur vie pour sauver notre pays. Retour sur les temps forts de la cérémonie de l'armistice à Paris aujourd'hui avec les 72 chefs d'État, les jeunes, les artistes présents. Il y avait aussi Madame Kijo. Ainsi que instant de panique au cortège de Donald Trump, on en parle. Et cette année, nous marquons le centenaire de la Première Guerre mondiale, décryptage sur le sacrifice des soldats des colonies françaises, le centenaire de l'armistice et les Français de l'étranger et jumelage entre Haïti et l'île Maurice. Que reste-t-il de la guerre 1914-1918 dans la mémoire collective? Quel est le regard des jeunes étudiants du monde? Et savez-vous d'où viennent les mots poilu, pinard ou encore bidoche? Quel est le rôle de la Grande Guerre dans l'histoire de la langue française? Collaboration aujourd'hui, Linda Giger de TV5 Monde et Corinne Manjou de Radio France Internationale. Dossier francophonie, pourquoi tout le monde en parle, ne parle pas de tout le monde. C'est l'émission Tout le monde en parle, bien sûr. C'est dans la foulée du tollé suscité par les propos de la journaliste Denise Bombardier à l'émission Tout le monde en parle à Radio-Canada récemment. Et Radio-Canada, justement, qui est visé par une pétition de francophones hors Québec. Notre invité, William Burton, jeune instigateur d'un portail web appelé Le Réveil, destiné à faire connaître les artistes, la communauté franco-ontarienne aussi, et les francophones hors Québec. Est-ce qu'il est le messie, le sauveur de la francophonie hors Québec? On verra bien. On lui parle en direct de Moncton au Nouveau-Brunswick vers 11h30. Rendez-vous communautaire avec l'Assemblée générale annuelle du mouvement ontarien des femmes immigrantes francophones, le MOFIF, prévu pour le 13 novembre prochain de 17h à 22h au Collège Boréal. On en parle avec la présidente bénévole du MOFIF, Feiza Abadalaoui. Elle sera des nôtres vers 12h30. Et y a-t-il vraiment un mouvement rassembleur des francophones de toute origine en Ontario? Est-ce que le mot FIF répond ou veut répondre aux attentes des exclus des groupes marginalisés francophones de l'Ontario? C'est la question que nous poserons à Faiza aujourd'hui. Et pour nous joindre tout au long de l'émission, popourri@cut.fm ou encore le 416-9436-7000, je remercie tous ceux et celles qui ont commencé à contribuer à notre prochaine campagne de levée de fonds qui démarre demain et se termine le 18 novembre prochain. Je remercie ceux et celles qui ont envoyé déjà leurs dons. Vous pouvez le faire en allant sur le site www.cut.fm ou encore téléphoner à l'équipe. Sloan est ici, attend votre appel, 416-9436-7000. Un gros merci et bonjour au professeur Daniel Issa-Sayeg qui est de retour à Toronto et qui sera des nôtres la semaine prochaine pour nous donner un coup de main. Pour nous joindre, encore une fois, popourri@cut.fm, popourri show, 32 ans déjà, le devoir de mémoire. Émission spéciale centenaire 14 à 18 sur CUT 89,5 FM en partenariat avec RFI. Le 11 novembre, qui acte la fin de la Première Guerre mondiale, appelée aussi Grande Guerre, laisse derrière lui 9,7 millions de morts, dont 1,4 million de Français. À l'occasion des commémorations, les passionnés d'histoire pourront se rendre sur les sites emblématiques de la Grande Guerre mondiale, 1914 à 1918. Le Premier ministre Justin Trudeau a remercié samedi, au nom de tous les Canadiens, Canadiennes, les 60 000 soldats canadiens qui ont perdu la vie lors de la Première Guerre mondiale. « Pour tout ce que vous avez fait pour notre pays », a-t-il dit. Le ciel était gris, dans le cimetière, des centaines de pierres tombales marquent les sacrifices faits lors de la bataille de Vimy. Une centaine de Canadiens reposent dans ce cimetière aux côtés d'autres soldats morts, dont plusieurs ne portent aucune inscription de nom. Plus de 7000 Canadiens ont été blessés et 3588 autres ont perdu la vie dans la bataille de la crête de Vimy, qui a duré 4 jours, du 9 au 12 avril 1917. Le Canada a finalement réussi à déloger les Allemands de cet important point stratégique. Le Canada ne comptait alors que 8 millions d'habitants à l'époque. La commémoration du centenaire de la Première Guerre mondiale a lieu ce dimanche 11 novembre 2018, un peu partout au Canada et à Paris à l'Arc de Triomphe, en présence de 72 chefs d'État, dont le Premier ministre canadien Justin Trudeau. S'ensuit le Forum de Paris sur la paix. Et bravo aux organisateurs pour la présence active des jeunes qui ont lu les lettres des soldats, des héros tombés sous les bombes de la guerre. Le boléro de Ravel, joué avec brio par un orchestre composé par des jeunes, et bien sûr Angélique Quijot, qui nous a vraiment fait frémir. C'était avec beaucoup d'émotion qu'elle avait interprété cette belle chanson africaine aujourd'hui devant les chefs d'État. Par contre, Vladimir Poutine et Donald Trump se sont fait huer par les médias qui n'apprécient pas leur retard à la cérémonie. Le cortège de Donald Trump a eu un moment de panique quand des militantes du Femen, au sein nu, ont approché la voiture de Donald Trump. Et enfin, le message d'Emmanuel Macron qui misait sur la paix, l'harmonie entre les nations et un rejet total du nationalisme. La perte totale du Canada pendant la Première Guerre mondiale se chiffre à environ 60 000 morts et 173 000 blessés. Dans l'esprit de nos aînés rescapés de cette horrible boucherie, saluons nos morts, respectons nos adversaires d'hier et construisons ensemble un monde, une Europe unie et de liberté tournée vers l'avenir. Peu importe le gouvernement en place de nos pays respectifs, le souvenir de tous ceux qui ont donné leur vie, Canadiens et étrangers, à qui nous devons rendre hommage, car nous leur devons notre liberté. Il ne faut jamais oublier leur sacrifice. L'influence de la guerre, la Grande Guerre et la langue française. Savez-vous d'où vient le mot poilu? Eh oui. Comment la Grande Guerre a fait du français la langue de la nation? La chronique de Linda Giguère à TV5 Monde.
Eh bien, je voudrais revenir ce soir sur le centenaire de l'armistice qu'on commémore. En ce moment, j'ai découvert que la Première Guerre mondiale a joué un rôle déterminant pour la langue française. Au point, Lydia, qu'on parle de la Grande Guerre comme d'un événement de langage. Alors, je vous explique. En 1914, quand la guerre éclate, il y a près de 4 millions de soldats qui viennent de toute la France, de tous les milieux sociaux, qui sont appelés sous les drapeaux. C'est la première mobilisation générale de l'histoire de France. Et ces hommes qui vont combattre ensemble, ils parlent pas la même langue. Ils parlent l'occitan, ils parlent le basque, ils parlent le ch'ti, le breton, mais la plupart n'utilisent pas le français dans leur quotidien. Le français, c'est une langue qu'ils ont apprise à l'école, ils savent l'écrire, mais ils la parlent très peu. Alors comment vont-ils communiquer? Eh bien, ils vont parler français. La guerre va obliger les Français à s'approprier cette langue qui leur est imposée par le pouvoir, et elle va en faire la langue de la nation. Dans le même temps, les soldats vont s'inventer un langage, l'argot des poilus. C'est la langue des tranchées. Ce parler poilu va jouer un rôle essentiel. Il va rassembler les soldats, créer un esprit de solidarité entre eux pour faire face, bien sûr, aux atrocités de la guerre. Savez-vous, Nidia, ce qu'on entendait quand on disait qu'un soldat séchait sur le fil?
Non, dites-moi.
Eh bien, ça voulait dire qu'il avait été tué accroché au barbelé. Une voiture à viande, c'était un cercueil, un corbillard. Ils envoyaient passer tous les jours les soldats et ils avaient les grelots qu'une marmite leur tombe sur un coin de la gueule. Ils avaient peur qu'un obus leur tombe sur la tête. Aller au boudin pour les poilus, c'était partir au front. Ils se comparaient ni plus ni moins à de la chair à canon. Mais ils le faisaient souvent avec humour, avec dérision. Et c'est normal puisque leur quotidien était si dur, si indicible, qu'il leur fallait bien minimiser toutes ces horreurs. Eh bien, ça a été le rôle de cet argot des poilus. Il a permis aux soldats de résister, de survivre. Les spécialistes parlent même d'un rôle cathartique, d'un rôle libérateur. Quand un soldat courbait une aile, c'est qu'il s'était fait blesser. C'est beau, ça.
Ah, oui.
Quand un avion lâchait ses crottes, c'est qu'il laissait tomber ses bombes. Mmh. Il y aurait aujourd'hui quelques centaines de mots des poilus encore présents dans notre vocabulaire. Je pense à la gnôle, l'eau de vie. Je pense au pinard, au jus de chaussette, à la bidoche, au godasse, au poilu, bien sûr. Pourquoi est-ce qu'on les appelait les poilus,
ben oui, d'ailleurs,
à votre avis? C'est pas parce qu'il n'y avait pas de rasoir dans les tranchées, non. Être poilu, c'était une expression qui datait d'avant la Grande Guerre et qui signifiait être courageux. Elle faisait référence à la croyance populaire selon laquelle la pilosité était un signe de virilité. C'est donc à partir de 1914 que le terme poilu s'est répandu. Et c'est un mot qui restera sans doute longtemps dans les mots.
Êtes-vous un fournisseur de services? Faites-vous partie de la communauté francophone? Connaissez-vous vos droits pour recevoir des soins de santé en français? Qu'est-ce que l'offre active en santé? Alors, Reflet Salvéo, l'organisme à but non lucratif, est là pour vous accompagner dans votre démarche pour trouver des soins et bons services en santé. Reflet Salvéo est chargé d'engager la communauté francophone dans son système de santé, mais également de conseiller les réseaux locaux d'intégration des services de santé sur leur politique de service. Connaissez-vous les slogans de Reflet Salvéo? Compétence, écoute, engagement, solidarité. Reflet Salvéo, le reflet des besoins en santé pour les francophones de la région. Que vous soyez immigrant, femme, jeune, personnes âgées ou personnes ayant un handicap, ou vivant avec le VIH, Reflets Salvéo prend en compte vos besoins dans son plan d'action. Découvrez toutes les thématiques, les projets et les offres d'emploi disponibles en ce moment chez Reflets Salvéo en visitant le site web www.reflessalvéo.ca. Faites comme Christopher, devenez membre et prenez votre santé en main. Communauté informée, communauté en santé, ça commence chez Reflets Salvéo.
Scanner Swagwego, Swaton Dogin and Nancy IUT, Wadrenota, 89.5, Nigantu, Nantahun, Toundo, Toronto, Ontario.
Et oui, la rentrée 2018-2019 est bien entamée à CUT FM. Toute l'équipe de la radio vous remercie de votre fidélité. 32 ans déjà que Popourri Show et ses partenaires vous proposent des aventures, des escapades, des échappées, des expériences inédites entre culture et francophonie. Que nous réserve la nouvelle année? Qui sont nos partenaires de choix? Quelle sera la place réservée aux écrivains, aux cinéastes, aux jeunes, aux comédiens, aux femmes, aux artistes? Quels sont les enjeux? Pourquoi certains auditeurs, certains immigrants francophones remettent en question le leadership des politiciens et des chefs de file des organismes francophones? Suite au brouhaha entre Queen's Park et l'hôtel de ville de Toronto, quelle sera la place accordée aux francophones? Qui sont les défenseurs, les vrais défenseurs des droits des francophones de la grande région de Toronto et de l'Ontario? Avec le réchauffement climatique et les phénomènes météorologiques extrêmes, que font nos gouvernements? Selon vous, est-ce que nos gouvernements en font assez pour améliorer le climat social, le sort des réfugiés et des immigrants? Pouvons-nous, devons-nous leur faire confiance aux politiciens? Vous êtes femme, nouveaux immigrants, étudiants, membres de la communauté LGBTQIA ou personnes âgées? Quels sont vos organismes, vos médias ou vos services préférés? Du 12 au 18 novembre, The Sound of Your City, aidez-nous à garder l'antenne. Et oui, du 12 au 18 novembre, campagne d'adhésion, automne 2018. Aidez-nous en devenant membre, en cliquant sur www.cut.fm, investissez pour une bonne cause. Le Grand Prix consiste en un voyage pour deux en Islande et aussi d'autres prix, entre autres, que je viens de recevoir par FedEx, des billets de cinéma, théâtre au cinéma, grâce à Cineplex. Du 12 au 18 novembre, soyez des nôtres. Popourri Show compte sur vous. www.cut.fm ou encore www.popourrishow.com. Merci d'être là. Merci de votre fidélité.
Vous écoutez Popourri Show sur CUT 89,5 FM. Une émission présentée en partenariat avec le département de français, campus Saint-Georges, le département d'études langagières, campus de Mississauga, à l'Université de Toronto, le Centre de recherche en éducation franco-ontarienne, le CREFO, l'Express de Toronto et Radio France Internationale. Popourri Show, 30 ans déjà. Toute la diversité du monde sur votre fréquence et sur www.cut.fm ou www.popourrishow.com. Soyez des nôtres chaque dimanche de 11h à 13h sur CUT 89,5 FM.
Bientôt à l'émission.
Usted está escuchando
Terre d'Alliance.
Tierra de Alianza.
Terre d'Alliance.
Sur France Inter.
Con Alexandre Hero.
Oui, bonjour. Toronto, c'est les gens qui y habitent.
Pourquoi tu filmes? Tu enregistres en direct maintenant?
Toronto change au fur et à mesure que la population de la ville change. Et
comme ça?
Ben pourquoi pas? Son identité, c'est la culture et les désirs de devenir de chacun qui y habite.
On est live sur Twitter ou quoi?
OK. Yeah. Moi, je suis qui? Ouais. Yeah. Moi je suis quoi?
C'est le tourbillon des super filles du roi qui ont unifié le français ici au Canada. Je fais l'interprète comme Mathieu Dacosta.
de Niagara à Matawa à Wawa.
Je sors sur le métro, je rêve tout haut. Fier comme une tour bien enracinée. Je prends le train go, je chante tout haut. Je parle en français, chez nous en Ontario.
Et mon maquette se fera pour Ontario. Et pas comme une scène se flashe
Le brise de l'est, sa plus longue rue du monde. Yeah. À mes oreilles, mes dialectes abondent. Uh-huh. Des premières nations aux derniers arrivés. Je vis dans un monde plein de sonorités.
Comme Jean Mahop, c'est un ou Eiffel. Ma langue, c'est le point de cette tour des Babel. Partout en Ontario, au pays d'en haut. Autour du monde, je monte toujours plus haut. Yeah.
Et mon maquette se fera pour Ontarienne.
Yeah.
Et quand comme nous, c'est sur la chute. Yeah.
L'Ontario, les francophones hors Québec, c'est peut-être une denrée rare pour une certaine journaliste. L'auteur, journaliste et animatrice à Radio-Canada, Denise Bombardier, qui avoue être attirée par la controverse et la polémique, par conviction et par plaisir. Un aveu fait dès le quatrième paragraphe de son autobiographie, Une vie sans peur et sans regret, publié le 22 octobre dernier. Et la polémique a rapidement suivi la sortie de son livre alors que l'auteur a parlé d'une culture de survivance au sujet des francophones hors Québec. Et cela vous concerne, madame, monsieur, vous les franco-ontariens, les francophones de Toronto qui sont en train d'écouter cette émission et qui attend avec impatience notre jeune invité, l'instigateur d'un site web qui essaie de ramasser le maximum de signatures pour contrer la bombe, la bombardière. Et oui, survivance, culture de survivance au sujet des francophones hors Québec. Il faut vraiment être ignorant de nos jours pour ne pas savoir qu'il y a des gens engagés, une vitalité incroyable du jamais vu des francophones hors Québec pour militer afin de garder leurs droits, leur éducation, leur service en français. Et oui, c'était lors d'un passage, de son passage à l'émission « Tout le monde en parle » de Radio-Canada le 20 octobre dernier. Des propos qui ont été dénoncés tant en Acadie qu'au Manitoba. Comme je l'ai dit depuis belle lurette, depuis 32 ans, on vous chante la même chanson. Beaucoup de Québécois méconnaissent les réalités et la vitalité des francophones hors Québec. Au lieu de monter au créneau, il est de notre devoir et surtout des chefs de file de la francophonie hors Québec de corriger le tir. Bref, les francophones hors Québec sont des gens résilients et si la tendance se maintient, les francophones hors Québec seront un jour les garants de la francophonie au Canada, je vous le dis. Les propos de Denise Bombardier sont scandaleux. Comment expliquer qu'elle a toujours droit de parler sur les ondes d'un télédiffuseur public? Pourquoi n'a-t-elle pas perdu son emploi? Pourquoi Radio-Canada n'a pas présenté des excuses à ces milliers de francophones francophiles hors Québec? Y a-t-il pas là une politique de deux poids, deux mesures? Des fois, quand on est blanc, tout y passe. Mais si par malheur, on a une peau un peu brune, alors ça, c'est une autre histoire. Toute une autre histoire. Pourquoi tout le monde en parle, ne parle pas de tout le monde? C'est la question que se pose mon prochain invité, ce jeune franco-ontarien d'Ottawa, est à l'origine d'une pétition en ligne, hashtag réveil TLMEP, demandant à l'émission phare de Radio-Canada de reconnaître la culture francophone hors Québec. En 2018, madame, monsieur, ça se passe en 2018. Vous vous souvenez, dimanche, j'ai fait état, sans trop de surprise, de l'ignorance de certains Québécois. Et j'ajoute aussi de certains Français qui méconnaissent la vitalité et réalité des francophones hors Québec. Est-ce que mon invité est peut-être le Messie, ce Messie tant attendu pour sauver les francophones hors Québec?
Il est très jeune. Il a déjà un bagage impressionnant d'expérience qui lui permettent sans doute de devenir un jour un leader de la francophonie de l'Ontario, mais on verra. Ce jeune homme de 20 ans d'Ottawa vient de remporter le prix de la francophonie de l'Ontario pour son implication dans la communauté et dans plusieurs activités de l'industrie culturelle. Et il est actuellement, je pense, quelque part au Nouveau-Brunswick, à Moncton. Mesdames, messieurs, accueillons chaleureusement notre invité, premier invité du dimanche, William Burton. Oui, bonjour, mon cher William, et merci d'être là. Alors, que faites-vous à Moncton en ce moment?
Eh bien, j'étais à la Francofête en Acadie. Mm-hmm. J'ai rencontré les artistes qui viennent de partout. On a des artistes de Nouveau-Brunswick, des territoires autour, des provinces du Canada, et même ceux de l'international.
Mm-hmm. Alors, en vitrine aujourd'hui. Très bien. Pour mettre les choses au clair, vous êtes né au Québec?
Ouais, je suis
vous avez
Montréal.
Déménagé à Ottawa,
ouais.
Et vous êtes franco-ontarien.
Absolument, oui.
Et très impliqué d'ailleurs dans votre école, le milieu scolaire, mais aussi au niveau culturel.
Ouais.
Et pourquoi vous avez décidé de réagir face aux propos de Mme Bombardier?
Je pense qu'en tant que jeune francophone canadien-français, je pense qu'il y a... On est tous assoiffés de trouver et découvrir notre culture. Quand que j'ai vu ces propos à la télé, j'ai décidé de réagir à l'enjeu. Il y a aussi quelqu'un parmi mon réseau sur Facebook qui a dit que dans les écoles secondaires, tous les jeunes parlent uniquement anglais et que notre langue est en train de se détériorer. Ça, c'est vraiment ce qui est venu me chercher. Moi, j'avais besoin de protéger notre fierté en tant que jeune. C'est pas que on veut pas parler en français, c'est que il y a rendu une question de popularité des deux langues. C'est plus cool de parler en anglais. Puis ça, c'est quelque chose qui est instauré par nos adultes, dans le fond, qui nous disent, qui nous forcent d'être anti-anglais et pro-français, dans le fond.
Mmh. Et parce que ce que je trouve, vous êtes très jeune, vous êtes courageux d'avoir monté un site hashtag réveil TLMEP pour Tout le monde en parle. D'ailleurs, combien de signatures vous avez eues à ce jour?
En ce moment, on est à plus de 1200 signatures.
Ah oui, bravo. Et là, je sais que je vais me faire tirer des tomates sur la tête. Heureusement qu'on est à la radio. Il y a beaucoup d'organismes porte-parole, porte-voix de nos communautés à travers l'Ontario, le Manitoba, le Winnipeg, enfin le Canada hors Québec. Mais tous ces gens sont restés, très silencieux. C'est à travers votre démarche, si ma mémoire est bonne, que là, on a eu un réveil de la part de... l'Assemblée de la francophonie de l'Ontario et aussi d'autres organismes hors Québec. Comment expliquer que ça a passé par un jeune qui a décidé de s'engager pour que les adultes et les gens qui sont censés nous représenter, être notre porte-parole pour les francophones hors Québec, décident de s'engager après votre intervention?
Oui, ça fait longtemps que... Moi, j'ai appris dernièrement que ça fait longtemps que nos organismes provinciaux et nationaux tentent d'atteindre Radio-Canada pour avoir une plus grande représentation. Ça fait longtemps que ça existe, ce type de mouvement. L'important est maintenant qu'on est en train de vivre le mouvement, toutes les voix qui sont en train de signer, c'est à cause que c'est quelqu'un du public qui est venu amener cet enjeu-là à Radio-Canada. Ce n'est plus des directeurs généraux des organismes qui parlent à des grands employeurs de Radio-Canada. C'est plus dans les coulisses, c'est plus politique, c'est rendu sur le terrain, c'est le public qui entre en jeu. Et maintenant, Radio-Canada doit répondre à cette demande qui est rendue publique, dans le fond.
Vous savez, depuis très longtemps, on se fait assaillir par toutes sortes de menaces, des fois. Mais on a démuté l'émission ici à l'Université de Toronto
avec l'emblématique Les Voix des Sans-Voix, parce qu'on sent qu'il y a beaucoup de gens, d'ailleurs comme vous, qui n'ont pas voix au chapitre dans les grands enjeux de notre société en tant que francophone hors Québec. Et depuis très longtemps, on s'est posé la question, pourquoi Radio-Canada, si cette institution nationale, le fleuron de notre culture, veut garder la tête haute avec les francophones, les anglophones, les francophiles, mais tous les Canadiens de tous bords, pourquoi ne pas travailler avec eux? Pourquoi ne pas embaucher des gens de ces communautés pour refléter les diversités culturelles d'un océan à l'autre de ce pays? Parce que Radio-Canada peut être un facteur unitaire pour la culture du Canada, n'est-ce pas? Or, on trouve encore aujourd'hui, peut-être à Ottawa c'est différent, peut-être à Sudbury un peu différent, mais à Toronto, on nous envoie toujours des gens du Québec, de Montréal, qui ne connaissent pas vraiment la culture franco-ontarienne et souvent, ils font des gaffes énormes. Au point de vue de la diversité, n'en parlons pas. Si jamais ils embauchent un noir, le noir ne reste pas très très longtemps. On le sait, il n'y a pas de représentativité culturelle à l'antenne de Radio-Canada, qui est une radio qui est financée par les deniers publics.
Et je pense qu'il faudrait qu'ils reconnaissent que dans les provinces, il existe différentes réalités, différentes cultures, et qu'une seule langue, le français, on dirait qu'ils veulent diviser le français, pur laine, on dirait, du Québec, des autres types de français, dans le fond. Moi, je dis toujours qu'on a une langue d'un océan à l'autre, mais il y a des différentes cultures, différents héritages que les francophones ont reçus dans les différentes provinces. On dirait qu'ils ne veulent pas reconnaître ça.
Ah, vous savez que RDI, moi je suis abonné à Radio-Canada, je regarde toutes les chaînes de télévision en anglais, en français, Bhojpuri, parce que c'est ça la culture, c'est ça le Canada. J'arrive pas à comprendre pourquoi RDI, qui est censé représenter le Canada, parce qu'ils nous rejoignent ici à Toronto, à Moncton et ailleurs, où on passe à Vancouver, on peut capter RDI. Ils font des belles émissions, mais comment, bon sens, ils n'arrivent pas à refléter dans leurs nouvelles, dans que ce soit les informations, la culture, les enquêtes, les grands enjeux, de temps en temps, essayer d'intégrer aussi les priorités, les enjeux des francophones hors Québec. Comment expliquer que RDI, aujourd'hui, en 2018, n'arrive pas à suivre les événements des francophones hors Québec?
Mais je ne sais pas pour RDI si ça ressemble à quoi, le comité de recherchistes, mais je sais qu'à tout le monde en parle, il y a un comité de 10 à 15 personnes qui choisissent les personnalités qui vont arriver à l'émission, et on parle de toujours d'une communauté de 10 personnes qui ne représentent pas la diversité du Canada, et en plus, ils disent, ils prétendent qu'ils ont la sensibilité pour comprendre les enjeux hors Québec. Je trouve que si on parle d'une émission où est-ce qu'ils ont 6 recherchistes, ça serait extrêmement important qu'il y en ait au moins un qui représente le restant du Canada pour amener ces enjeux-là, pour les défendre aussi. Quand on suggère une personnalité, à tout le monde en parle dans ce comité-là, tout le comité doit voter pour cette invité-là. Si on en a juste un, ça serait bien pour qu'on ait une voix. Mais ensuite, après ça, il va falloir que cette personne puisse le défendre en plus.
Alors, il y a un des animateurs, de Tout le monde en parle, qui a admis la semaine dernière, M. Turcotte, que, en effet, il y a un problème et a voulu rectifier le tir de Mme Bombardier. Qu'est-ce qu'il a dit exactement, M. Turcotte?
Ben, dans l'entrevue que nous avons faite, moi puis lui, il m'a expliqué que c'est pas le... Lui, toujours, il aime proposer des invités hors Québec. Lui a eu son émission qui a fait le tour du Canada. Danny Turcotte, il a une sensibilité par rapport aux franco-canadiens, mais il dit que c'est pas lui qui va tout changer. Il dit que son émission n'est pas meilleure que toutes les autres. Donc moi, c'est ça qui m'a poussé à vraiment aller chercher vraiment le noyau du problème, puis de lancer une pétition pour régler toutes les émissions diffusé au national.
Je rappelle, madame, monsieur, que vous êtes en compagnie d'un jeune franco-ontarien. Enfin, il est natif de Brossard, au Québec. Oui. Il est arrivé à Ottawa très, très jeune. Et après des années passées en Grande-Bretagne avec sa famille. et aujourd'hui à Ottawa, il est un homme très, très engagé. Il s'appelle William Burton et il lance une pétition en ligne contre Radio-Canada et l'émission Tout le monde en parle. Je vous invite chaleureusement à aller sur hashtag réveil TLMEP. Et nous allons entendre un entretien que vous avez donné lors de votre réception. Je pense que vous êtes récipiendaire d'un prix, oui. Bernard Grandmaître, qui est le grand patron et celui qui a créé la loi sur les services en français en Ontario. Nous écoutons un extrait.
Dès le début, je suis impliqué dans mon école, en septième année, dans mon gouvernement des élèves. Mm-hmm. J'ai continué avec des équipes techniques, des équipes d'environnement. Plus tard, dans mon secondaire, je me suis vraiment impliqué à l'extérieur de mon école. J'ai fait partie de un réseau des élèves de mon conseil. Donc, il y a des gouvernements des élèves dans des écoles, mais il y en a un qui représente tous les gouvernements des écoles à le conseil.
Le gouvernement des écoles
dans tout le conseil. Fait que là, il y a un membre de l'école qui est représenté. Et donc là, tu peux le faire consulter par des surintendants et des invités vedettes. Sinon, je me suis impliqué dans le théâtre de la Catapulte, dans Réseau Ontario en tant que jury jeunesse à un grand événement qui s'appelle Contact Ontario.
Mm-hmm. Ben oui, bien sûr.
Puis là, je me suis impliqué partout. Puis à chaque fois que je voyais quelqu'un qui me passionnait, j'allais les voir, je me présentais, je me donnais j'ai une mini carte d'affaires. Je disais, si jamais tu as besoin d'un instant pour quoi que ce soit, appelle-moi. Uh-huh. Et c'est comme ça que j'ai décroché des projets un peu partout.
Et oui, bravo, félicitations.
Hey, vous êtes allé loin pour aller chercher ça.
Et nous avons des bons recherchistes, Monsieur Burton.
Oui.
Hein?
Oui, vous avez un grand truc pour dire homme à chaque deux secondes que j'essaie d'être toujours invité dans vos discours depuis les années. Là.
Oui, d'ailleurs, vous savez que l'émission est ouverte à vous quand vous voulez. Je pense que c'est très important d'avoir des voix jeune comme vous, un homme engagé. Et vous savez, votre nom, là, c'est comme si prédilection en tant qu'acteur, William Burton. Et alors, il y a eu une mise au point sur la francophonie dans la foulée de l'affaire Bombardier, selon un article du journal Le Devoir que je vais lire rapidement. Depuis ce qu'il convient d'appeler l'affaire Bombardier, on répète à satiété qu'il y aurait 2,7 millions de francophones vivant au Canada à l'extérieur du Québec. Ce nombre provient du recensement de 2016 et correspond à plus de 2 millions de personnes affirmant avoir la capacité de soutenir une conversation en français, peu importe s'il s'agit pour eux d'une langue maternelle ou d'une langue seconde. C'est la Fédération des communautés francophones et acadiennes, le principal organisme porte-parole des francophones hors Québec, qui a fait le choix de ne plus compter le nombre de francophones en fonction de la langue maternelle. C'est elle qui affirme ainsi qu'il y aurait 2,7 millions de francophones au Canada, hors Québec, et c'est ce chiffre qu'a repris Danny Turcotte à l'émission « Tout le monde en parle » dimanche dernier. Alors, c'est là d'où est venu. Je voulais juste faire le point pour les auditeurs qui nous écoutent que c'est très important quand il y a des recensements, des campagnes de recensement, de bien répondre aux questions parce que moi, cher ami, je vois des francophones, des francophiles partout, à chaque jour, dans mon milieu, à travers la province et à travers le Canada. Mais beaucoup ne se sentent pas comme francophones. C'est ça le problème aussi peut-être de notre pays. Hein? Il y a beaucoup de gens qui comprennent et qui parlent français, mais qui ne savent pas qu'il y a un recensement et qu'il faut qu'ils s'identifient. Il faut être fier et dire que je suis francophone, n'est-ce pas? Et comment faire pour créer cet élément de fierté en tant que francophone du Canada?
Et moi, j'ai lancé mon... Il y a un mouvement qui s'appelle Réveil, tout le monde en parle, que j'ai lancé, mais moi, j'ai une entreprise qui s'appelle Le Réveil. C'est ça qu'on essaie de faire avec les jeunes d'Ottawa. On essaie de faire vivre des événements où est-ce qu'ils peuvent éveiller leur culture, s'identifier à des artistes qui sont parmi eux, qui chantent en français, qui chantent très bien, qui ont des belles chansons qu'ils peuvent écouter. Il faut juste les... Tu sais, il faut trouver des événements où est-ce qu'on peut sortir nos jeunes pour les faire découvrir leur culture, mais ensuite, surtout... d'expliquer, d'avoir une discussion pour comprendre pourquoi qu'on peut être fier de notre culture. Puis moi, je trouve que, pour répondre à ta question, comment qu'on peut s'identifier à notre culture, un des grands moyens, c'est d'avoir des modèles qui peuvent nous représenter, qu'on peut voir. Et moi, j'aimerais en voir plus à la télé. Et c'est pourquoi ce mouvement existe. Pour moi, c'est d'offrir aux jeunes le moment de voir quelqu'un d'autre qu'un Québécois français à des émissions.
Mais alors, continue sur ta route, on est là, et je suis convaincu qu'il y aura beaucoup de monde. On a besoin, je respecte hein, tous les organismes qui existent actuellement, l'AFO, tous les autres organismes qui représentent les francophones à travers l'Ontario et hors Québec, mais je trouve qu'il manque un peu de dynamisme. J'arrive pas à comprendre que rassemblement de l'AFO, on arrive à avoir seulement 300 personnes. Il y a plus de 300 personnes qui pourraient être membres de l'AFO pour participer à leur congrès annuel, il me semble, n'est-ce pas?
Oui.
Et puis quand
oui.
on regarde ce qui s'est passé avec les dernières élections au Nouveau-Brunswick, il y a des anglophones un peu extrêmes qui trouvent que ça coûte trop cher d'avoir des services en français et on a vu les résultats des élections au Nouveau-Brunswick récemment, n'est-ce pas?
Oui, puis moi j'étais là toute la semaine, puis ça a été un extrêmement beau voyage de voir comment que ça se fait une province bilingue. Moi, je viens de l'Ontario, je veux voir ce genre de réalité dans ma province. Ouais, c'est vraiment beau.
Et qu'est-ce que tu vois comme avenir au niveau des communautés francophones?
Eh bien, en ce moment, on voit un nouveau vent de fraîcheur dans la jeunesse. On est en train de se réveiller, on est en train de se mobiliser d'un océan à l'autre, dans le fond. Pour ce mouvement-là, j'étais en train de m'associer avec des grands organismes pan-canadiens et régionaux et provinciaux. Il faut que cet enjeu-là sorte de le réveil et évolue auprès des communautés canadiennes françaises. Donc, on est en train de se mobiliser entre directeur général.
Et peut-être un jour, vous serez premier ministre du Canada. Pourquoi pas? Hein? Le premier ministre, William Burton. Premier ministre du Canada. Alors, madame, monsieur, voilà, il est à l'origine de cette pétition qui est en ligne. Hashtag réveil TLMEP pour Tout le monde en parle, qui demande à l'émission phare de Radio-Canada de reconnaître la culture francophone hors Québec. J'espère que les artisans de Radio-Canada qui sont à l'écoute vont travailler avec vous, vont travailler avec nous pour refléter les voix diverses de la francophonie hors Québec. Nous adorons le Québec, nous aimons les Québécois, les Québécoises. Nous pensons que le Québec, c'est un moteur, un poumon de la francophonie en Amérique du Nord. Ça, il n'y a pas d'enjeu là-dessus, il n'y a pas de discussion. Mais il faut aussi prendre en compte cette communauté si riche, si diverse des francophones hors Québec pour que tout le monde, et justement dans cette journée spéciale, journée du souvenir, c'est peut-être le moment aussi de se réveiller et de dire, eh ben, faut assez de frictions, assez de débats, essayons de trouver des actions communes pour qu'il y ait un peu plus d'unité au niveau de notre beau Canada, n'est-ce pas?
Absolument, non, oui. Je suis tout à fait d'accord.
Le jour du souvenir, ça vous dit quelque chose, mon cher ami?
Oui, mais je voulais souligner surtout le travail de nos Canadiens français, mais non seulement, c'était une des premières fois où est-ce que le Canada s'est mis ensemble. Donc oui, c'est une excellente journée pour souligner ceci.
Mesdames, messieurs, je remercie notre invité, peut-être futur Premier ministre du Canada, William Burton. Merci et à bientôt. Voilà. À très bientôt, mon cher ami.
À très bientôt.
Que tu viennes de Pointe-aux-Roches ou d'Orléans, je vais chanter, je vais chanter pour mettre les accents là où il le faut. Faut se lever. Pour demain, notre place pour un avenir meilleur.
Notre place pour un avenir meilleur.
Donnons-nous la main.
Ça vient du fond du cœur.
Notre place pour un avenir meilleur.
Donnons-nous la main.
du militaire. Il est là-bas, à deux pas de la forêt. Une maison au mur tout couvert de lierre. Au vrai poilu, c'est le nom du cabaret. La servante est jeune et gentille, légère comme un papillon.
Eh oui, les Canadiens se souviennent de vous, de ce que vous avez défendu et de l'histoire que vous avez écrite, a affirmé le Premier ministre canadien Justin Trudeau. Une histoire pour laquelle vous êtes battu et pour laquelle vous avez souffert. Une histoire bâtie sur vos sacrifices. La bataille de Vimy est considérée comme l'une des victoires militaires les plus importantes pour les Alliés. La crête de Vimy est une victoire pour les Alliés. Beaucoup disent que les exploits ici à Vimy étaient un point tournant de l'histoire du Canada qui a marqué le début d'une ère nouvelle pour notre pays, le Canada. Aujourd'hui, nous sommes le 11 novembre. Il y a 100 ans, les soldats partaient de tous horizons et de tous les points de France et du monde pour rejoindre le front. Nos anciens ont sacrifié leur sang, leur famille, leur vie. Nous vivons dans un pays libre grâce à eux. C'est dans nos cœurs que nous leur rendrons hommage aujourd'hui. Bonne journée à vous tous, signé Véro.
Elle dit, veux-tu finir? On se figure que c'est l'autre, ça nous fait bien plaisir. Camadelon.
Écoutez la planète chanter.
Rappelle à ton souvenir.
Ay, maman, voilà le voile.
Adrabène la cosa, ding-e-dong.
Non, attends, alléluia.
Écoutez la planète chanter.
CIUT 89.5 FM, the station that brings you funk, soul, and everything in between on Higher Ground with Jason Palma. Thursday nights at 8.
CIUT 89.5 FM, the sound of your city.
Hi, this is Ken Stauer, station manager for CIUT-FM. I'd like to remind our listeners that the Sound of Your City membership drive campaign is fast approaching. The on-air drive will take place from November the 12th through to the 18th. We are looking forward to your financial support. If you love what you hear and if you value the creative programming that is offered on CIUT-FM each and every day, then I would encourage you to make your donation today. You may do so at our secure server, CIUT.FM. Just click on the Donate Now button. All donors will be eligible for the exciting grand prize draw of return airfare for two to Iceland with hotel accommodation included and more. So please help us make this membership drive campaign a success. You can help us do so by donating in advance right now at CIUT.FM. CIUT-FM 89.5, bringing you the sound of your city every day.
Join us for Vince Macaron's Los Variants CD release party, happening Wednesday, December 12th at the Burdock Music Hall. Featuring an incredible lineup of musicians from around the globe coming together for this exclusive performance. Tickets only $15 in advance, $20 at the door. Available online at burdockto.com. Showtime, 9 p.m.
CIUT 89.5, Toronto.
Et oui, madame, monsieur, ne pas oublier, du 12 au 18 novembre, c'est notre campagne d'adhésion de l'automne 2018. Aidez-nous en devenant membre en cliquant sur le lien suivant www.cut.fm ou encore téléphoner à notre équipe. Sloan est ici et attend votre appel au 416-946-7000. J'ai plusieurs billets de cinéma et des événements pour Cineplex Canada qui vous donnent droit à aller voir les films de votre choix et ou encore encore des comédies musicales grâce à la comédie musicale, la comédie française de France qui sera à Toronto dès le 21 novembre prochain. Donc j'ai 6 paires de billets ici, mais aussi cela vous donne droit à participer à ce grand prix qui consiste en un voyage pour deux en Islande. Et je remercie beaucoup le professeur Daniel Issasayek qui sera des nôtres la semaine prochaine pour nous donner un coup de pouce. 416-946-7000. Sloan attend votre appel. Et dans la deuxième heure, nous allons passer à cette assemblée annuelle du mouvement ontarien des femmes immigrantes francophones, le MOFIF, qui vous donne rendez-vous le 13 novembre prochain avec sa présidente Faiza Abba Dalawi, qui sera des nôtres vers 12h30 à ne pas rater. De retour aux nouvelles, les grands titres de RFI.
Charlotte Lalanne.
À la une, 72 chefs d'État réunis à Paris pour les 100 ans de l'armistice du 11 novembre 1918. Cérémonie hors norme sous l'arc de triomphe et un dispositif de sécurité renforcé. Après les commémorations, le forum de la paix dans un monde de conflits au Yémen, notamment la guerre dure depuis 3 ans. Une ONG appelle Emmanuel Macron à œuvrer pour la paix. Épuisés mais déterminés, plus de 5000 migrants honduriens sont repartis de Mexico à pied en direction de la frontière avec les États-Unis. Et puis nous irons à Madagascar 3 jours après le premier tour de l'élection présidentielle. Toujours pas de résultat. La colère monte, mais d'après un observatoire de la société civile, le scrutin s'est bien déroulé.
Émission spéciale, centenaire 14-18 sur CUT 89,5 FM en partenariat avec RFI.
France 1918. Pendant la Première Guerre mondiale, les caméramens du monde entier ont pris des risques pour tourner ces images. Ils en ont reconstitué certaines. Nous avons rajouté la couleur et le son. Novembre 1918, 11h du matin. Ce jour-là, c'est le silence. L'armistice est signé. Clairons et cloches sonnent le cessez-le-feu.
Novembre 2018 marque le 100e anniversaire de la signature de l'armistice ayant mis fin à la Première Guerre mondiale. 100 ans plus tard, la Première Guerre mondiale laisse toujours des traces. Une guerre encore gravée dans les esprits. Quelques 10 millions de militaires morts, presque autant de civils, des combats sanglants et des conséquences qui se font sentir encore aujourd'hui. C'était aussi la première guerre à mobiliser autant de pays, ceux de l'Europe d'abord, mais également leurs alliés ailleurs dans le monde ainsi que leurs colonies. À la fin de la guerre, on entend deux discours différents, mais qui mènent cependant à la même conclusion. L'indépendance s'impose. Certains soutiennent que le Canada, par son sacrifice et sa victoire aux côtés des Alliés, mérite d'être reconnu comme une nation souveraine. D'autres estiment que les Canadiens auraient dû devoir prendre par eux-mêmes la décision de participer à la guerre plutôt que d'y être entraînés par leur appartenance à l'Empire britannique. Ce n'est cependant pas avant l'adoption du statut de Westminster en 1931 que le Canada obtient l'indépendance. À la suite du conflit, plusieurs colonies en sont arrivées au même constat et revendiquent, elles aussi, le droit de se gouverner. C'est aussi après 1918 que commence la tradition de la tombe du soldat inconnu, symbolisant tous les morts dont les restes n'ont pas été identifiés. Enfin, les champs de bataille préservés dans le nord de la France permettent de conserver le souvenir vivant. La Première Guerre mondiale a une dimension mémorielle et physique que n'ont pas les autres guerres. Édition spéciale 14-18, 100 ans de la Grande Guerre, plus jamais ça, plus jamais la guerre. Quelle est la place réservée dans nos hommages aux soldats des colonies? Entre 1914 et 1918, la France, la Grande-Bretagne, l'Allemagne, la Belgique, le Portugal ont recruté des milliers de soldats et de travailleurs dans leurs empires, sans mesurer les efforts et les sacrifices consentis. Sous le drapeau français, pendant la Première Guerre mondiale, jusqu'à plus de millions de soldats seront mobilisés. Environ 600 000 viendront des colonies. En tout, 8 millions de soldats mobilisés, des tirailleurs sénégalais, algériens, tunisiens, des soldats de Madagascar, d'Indochine, d'Océanie, du Maroc, de l'île Maurice, d'Haïti. 72 000 combattants de l'ancien empire français perdront la vie dans les tranchées pour la France. Jean-Pierre Reyra, professeur d'histoire au lycée Laoté de Casablanca au Maroc, explique le sacrifice des soldats des colonies françaises. Reportage de France 24.
Sous le drapeau français, pendant la Première Guerre mondiale, jusqu'à 8 410 000 soldats seront mobilisés. Environ 600 000 viendront des colonies. Des tirailleurs sénégalais, algériens, tunisiens, des soldats de Madagascar, d'Indochine, d'Asie, d'Océanie, des fantassins marocains. 72 000 combattants de l'ancien empire français perdront la vie dans les tranchées pour la France.
Par rapport au déroulement des combats, il faut savoir que les soldats marocains sont engagés dans toutes les grandes batailles de la Première Guerre mondiale.
40 000 Marocains, 200 000 Sénégalais étaient engagés dans la Grande Guerre. Leur mémoire a été difficile à préserver.
Alors il y a peut-être eu, bien sûr, des soldats, lorsqu'ils sont rentrés au pays, qui ont raconté, mais cette mémoire orale, hélas, elle a disparu. Donc il n'y a pas les témoignages que l'on peut avoir, par exemple, en France, quand on étudie l'histoire des poilus de la guerre de 14-18.
Et 10 ans après Jacques Chirac et l'inauguration d'un mémorial dédié aux combattants musulmans à Verdun, Emmanuel Macron rend un hommage particulier à son tour à ses troupes dites indigènes pour le centenaire de 14-18.
Édition spéciale, centenaire 14-18, sur CUT 89,5 FM, en partenariat avec Radio France Internationale et France 24. L'armistice de 1918 est un traité qui occupe une grande place dans l'histoire. Que s'est-il passé le 11 novembre 1918? Après l'échec des offensives allemandes de juin et juillet 1918, durant la Grande Guerre, les Américains et Britanniques débutent une offensive au mois d'août 1918 qui fait définitivement reculer les forces allemandes. Au terme de 2 mois de résistance de l'état-major allemand, le texte de l'armistice est négocié et acté dans le wagon de l'armistice le 11 novembre 1918. À 5h15 du matin. Nous avons pu assister hier Emmanuel Macron et Angela Merkel qui ont signé le même traité dans le même wagon de commandement du maréchal Foch près du quartier général allié, non loin de la gare de Rotonde dans l'Oise. En signant le fameux traité de Rotonde le 11 novembre 1918, les forces alliées et Allemagne ont mis officiellement fin à leur conflit en posant plusieurs conditions. Toujours le 11 novembre, Charles Ier, alors empereur d'Autriche, a finalement renoncé au trône. Sa dynastie des Habsbourg avait régné plus de 600 ans. Depuis 100 ans, même chez les plus jeunes, le jour du 11 novembre symbolise le dénouement de la Grande Guerre. Le rendez-vous du 11 novembre comporte de nombreuses anecdotes et son histoire reste méconnue ou oubliée par de nombreux jeunes. Le choix de la date du 11 novembre n'est pas un hasard. Il s'agit d'un choix français puisque cette date tombe pile sur celle de la fête traditionnelle du saint patron des Français, Saint-Martin. Le canon s'est donc tu à la 11e heure du 11e jour du 11e mois de l'année 1918 sur le front du nord-est de l'Hexagone et par conséquent dans toute l'Europe. Les soldats sortent alors des tranchées sans crainte, mais les festivités sont forcément endeuillées. À partir de 11 heures du matin le 11 novembre 1918, volées de cloches et sonneries de clairons annoncent la fin des combats sur le front occidental. Ils retentissent après 4 ans de guerre qui ont fait 1 500 000 victimes, jeunes pour la plupart. Au total, la Grande Guerre a fait plus de 8 millions de morts et de blessés. Plus jamais la guerre. Je vous invite à visiter un monument à la paix et aux souvenirs situés à Gatineau, pas loin de la ville d'Ottawa, fait de béton, d'acier et de granit, ce monument illustre l'harmonie, l'équilibre que les individus, les nations doivent atteindre. Une sphère représente la terre, la plénitude et l'harmonie à laquelle nous aspirons. Elle rappelle aussi l'aube et le crépuscule. La tribune donne une impression de sérénité. Son fini imite la surface de l'eau, élément naturel et symbole de vie. Plus jamais la guerre. Plus jamais la guerre. Aujourd'hui, nous manquons le 100e anniversaire de l'armistice de la Première Guerre mondiale. Une occasion de se souvenir des soldats de ces Français de l'étranger et des îles lointaines, Haïti, l'île Maurice, qui se sont battus aux côtés des Alliés en France. En effet, de nombreux Français résidant à l'étranger sont revenus en France pour combattre pendant les deux guerres mondiales et beaucoup sont tombés sur les champs de bataille. Ce centenaire est l'occasion de leur rendre hommage. Le centenaire de l'armistice et les Français de l'étranger avec Corinne Manjou, du magazine Vivre ailleurs de RFI.
Le centenaire de l'armistice sera aussi l'occasion de célébrer la mémoire des soldats français de l'étranger venus des quatre coins du monde pour se battre aux côtés des alliés.
Alors je m'appelle Michèle Malivelle, je viens de l'île Maurice et je suis conseillère consulaire pour Maurice, les Seychelles et puis Afrique australe, centrale et orientale. Alors vous savez, les gens ne se rendent pas compte à quel point la France est chevillée dans le corps de tous ceux qui sont loin. Nous avons voulu commémorer tous ces Français venus de l'étranger et tous ces jeunes soldats des pays où nous habitons actuellement et qui sont morts pour la France.
Jacques Marie est ancien conseiller élu des Français de l'étranger en Haïti.
Et maintenant je représente aussi délégué pour le souvenir français, justement pour faire vivre les souvenirs de tous ceux qui sont morts pour la France dans les deux dernières guerres. Alors de façon surprenante, en regardant les archives d'Haïti et en prenant contact avec nos historiens, j'ai remarqué qu'il y avait eu près de 55 morts haïtiens pendant la Grande Guerre, ce après 110 ans uniquement d'indépendance, ce qui est assez extraordinaire parce qu'on peut s'imaginer qu'après tout ce qui s'est passé entre Haïti et la France à ces époques-là, il n'y aurait pas eu de haïtiens qui soient venus combattre pour la France. Et malheureusement, il y a eu 55 morts haïtiens. Et de ce fait, on va essayer aussi, avant la fin de l'année, de mettre une plaque soit à l'ambassade, soit au centre culturel culturel et au lycée français pour se souvenir des Haïtiens morts pour la France.
Des plaques de souvenirs dans les écoles et les ambassades françaises à l'étranger existent aussi ailleurs, comme l'explique Michel Van Nivel.
Dans les ambassades ou dans les écoles, il y a des plaques avec le nom des Français partis de ces pays et venus mourir en France. En Tunisie, il y en a au Liban, à l'île Maurice, vous avez le Mexique, vous avez l'Argentine. Ces gens sont partis rejoindre leur régiment. Ce qu'il y a, c'est qu'il n'y a pas eu un régiment de Français de l'étranger. Nous avons été noyés dans des tas de choses, mais nous sommes quand même morts pour la France parce que nous avions la France à cœur.
Pas de régiment pour les soldats français à l'étranger, qu'à cela ne tienne. Pour éviter que leur mémoire ne soit noyée, Michel Manivel a initié un documentaire en hommage à ces soldats venus d'ailleurs. Extrait.
Ils ont fait leur pactage, embrassé leur famille et sont montés dans les grands bateaux dont la sirène a hurlé leur adieu à leur terre natale, rejoignant nos alliés et n'imaginant pas l'horreur qui les attendait. Le 22 août, ils montèrent à l'attaque et furent accueillis par un déluge de feu. Ce sera le jour le plus meurtrier de l'histoire de France, car 27 000 Français tombèrent, ainsi que des milliers d'Anglais qui se battirent avec un courage exceptionnel.
Parmi ces Français tombés sur le champ de bataille, beaucoup venaient de l'étranger, notamment de l'île Maurice, d'où est originaire Michel Manivel.
Et ce qui est extraordinaire, c'est que vous voyez, depuis le XVIIIe siècle, nous sommes Français, et nous sommes Français de cœur. Alors quand le gouverneur arrive sur la place et qu'il dit « la guerre est déclarée », tout le monde dit « on y va », et mon oncle qui est Français, il part pour l'ambassade et il dit « j'y vais ». Et on dit « mais il n'y a pas d'argent pour payer votre billet ». Alors on va emprunter de l'argent dans la famille. Il va prendre le bateau des messageries et il va se retrouver au chemin des dames où il va être gazé. Mais quand même, il a servi la France.
Maurice et Haïti, deux îles lointaines qui envisagent désormais un jumelage à la faveur de cet hommage aux soldats français de l'étranger. Jacques-Marie.
Nous avons un projet de jumelage entre l'île Maurice et Haïti, ce qui ne s'est jamais fait puisqu'on jumelle des villes à villes. On n'a jamais jumelé une île à une île, deux îles aux antipodes qui se sont battues pour la France et qui ont malheureusement un nombre de morts illimité.
De nombreuses commémorations sont prévues en France le 11 novembre prochain à l'occasion du centenaire de l'armistice.
Émission spéciale, centenaire 14-18, sur CUT 89,5 FM, en partenariat avec RFI et France 24. Chaque année, le 11 novembre, nous célébrons l'anniversaire de la signature de l'armistice de 1918, qui mit fin à la Première Guerre mondiale. C'est aussi un temps fort pour rendre hommage aux soldats canadiens, les héros et ceux de pays alliés. Quel rôle ont joué les femmes dans les guerres mondiales? Bien qu'un certain nombre de femmes travaillent à la production de munitions dans les usines au cours de la guerre des Boers, on observe une véritable explosion de la main-d'œuvre féminine lors de la Première et la Deuxième Guerre mondiale. D'après la Commission impériale, des munitions on dénombre pendant la Première Guerre mondiale environ 35 000 femmes dans les usines de munitions de l'Ontario et du Québec. Dès 1943, plus de 261 000 femmes participent à la production de matériel de guerre, représentant quelque 30% de l'industrie de l'aviation, près de 50% des employés dans les usines de fusils et la majorité de la main-d'œuvre en inspection d'armes. Au pays, les femmes s'efforcent également de maintenir l'économie nationale en vie. Pendant les deux guerres mondiales, elles produisent et conservent la nourriture, amassent des fonds pour financer les hôpitaux, les ambulances, les auberges,
et l'aviation et offrent leurs services à l'intérieur comme à l'extérieur du Canada. Elle travaille de concert avec le bien de la nation au sein d'organisations comme la Fédération des Instituts féminins du Canada, l'Imperial Order Daughters of the Empire, la Young Women's Christian Association et la Croix-Rouge canadienne. Quel qu'ait été le rôle conventionnellement réservé aux hommes et aux femmes, la guerre fait en sorte que toutes les ressources de la communauté sont essentielles. Toutefois, du fait du caractère temporaire du travail des femmes lors de la Première Guerre et Deuxième Guerre mondiale, les efforts consentis en temps de guerre ne parviennent pas à déstabiliser le système patriarcal bien enraciné. Et les femmes, au lendemain de la guerre, doivent retourner à leur rôle traditionnel. En temps de guerre, le travail des femmes est indispensable. En temps de paix, ce n'est pas le cas.
Mais au départ, mon écriture, elle ne part pas d'une idée.
La servante est jeune et gentille, légère comme un papillon, comme son vaste œil pétille, nous l'appelons la Madelon. Nous en rêvons la nuit, nous y pensons le jour, ce n'est que Madelon, mais pour nous c'est l'amour, car Madelon vient nous servir à boire. Sous la tonnelle, on frôle son jupon, et chacun lui raconte une histoire à sa façon. La Madelon, pour nous, n'est pas sévère. Quand on lui prend la taille ou le menton, elle rit, c'est tout le mal qu'elle sait faire. Madelon, Madelon, Madelon. Nous avons tous au pays une pays qui nous attend et que l'on épousera. Mais elle est loin, bien trop loin pour qu'on lui dise ce qu'on fera quand la classe rentrera. En comptant les jours, on soupire, et quand le temps nous semble long, tout ce qu'on ne peut pas lui dire, on va le dire à Madelon. On l'embrasse dans les coins, elle dit veux-tu finir, on se figure que c'est l'eau, ça nous fait bien plaisir, car Madelon vient nous servir à boire. Sous la tonnelle, on frôle son jupon, et chacun lui raconte une histoire à sa façon. La Madelon, pour nous, n'est pas sévère. Quand on lui prend la taille ou le menton, elle rit, c'est tout le mal qu'elle sait faire. Madelon, Madelon, Madelon.
Tout le monde écoute RFI. Tout le monde écoute RFI.
RFI. RFI. RFI. RFI.
RFI, la radio du monde.
CIUT 89.5, Toronto.
We'll be right back.
Voilà, monsieur, la rentrée 2018-2019 est déjà entamée. Toute l'équipe de la radio vous remercie de votre fidélité. Je vous rappelle encore une fois que du 12 au 18 novembre, c'est la campagne d'adhésion ou de renouvellement de votre adhésion. Automne 2018, campagne de levée de fonds. Aidez-nous à garder l'antenne. Aidez-nous en devenant membre en cliquant sur www.cut.fm. Donate, c'est le lien qu'il faut pour mettre les informations concernant votre don. Et n'oubliez pas de mentionner Pot Pourri Chaud. Le Grand Prix consiste en un voyage pour deux en Islande. Et aussi, j'ai plusieurs laissez-passer de Cinéplex pour assister aux événements ou encore à des comédies musicales grâce à la Comédie Française qui sera à Toronto dès le 21 novembre prochain. Et d'autres surprises, d'autres cadeaux vous attendent. Du 12 au 18 novembre 2018, alors, qui dit mieux, appelez-nous au 86 946 7000 ou encore Potpourri. @cut.fm.
Vous écoutez Potpourri Show sur CUT 89,5 FM. Une émission présentée en partenariat avec le département de français, campus Saint-Georges, le département d'études langagières, campus de Mississauga, à l'Université de Toronto, le Centre de recherche en éducation franco-ontarienne, le CREFO, l'Express de Toronto et Radio France Internationale. Potpourri Show, 30 ans déjà. Toute la diversité du monde sur votre fréquence et sur www.cut.fm ou www.potpourrichaud.com. Soyez des nôtres chaque dimanche de 11h à 13h sur CUT 89,5 FM.
Bienvenue et merci d'être avec nous pour ce nouveau numéro de Reporter sur France 24, émission exceptionnelle consacrée à la Première Guerre mondiale, dans un lieu exceptionnel lui aussi, puisque dans cette clairière de Retonde où nous nous trouvons dans la forêt de Compiègne, à une centaine de kilomètres de Paris, et bien c'est là qu'a été signé le 11 novembre 1918, l'armistice mettant fin au premier conflit mondial du XXe siècle. Un conflit qui allait voir l'Europe s'embraser et ses frontières se redessiner, un conflit terriblement meurtrier. C'était il y a 100 ans, tout juste, et c'est cette histoire.
Et oui, mesdames, messieurs, une émission spéciale aujourd'hui dans le cadre du centenaire de la première, qu'on appelle aussi la Grande Guerre, Première Guerre mondiale. Il y avait plus de 70 chefs d'État à Paris aujourd'hui. Quelle belle cérémonie, hein, ce beau boléro de Ravel et Angélique Quijot et tous ces jeunes qui sont venus lire les lettres de ces soldats tombés sous les bombes. C'est des lettres d'amour qu'ils envoyaient à leurs femmes, à leurs fiancés, à leurs parents. C'était émouvant. Et d'ailleurs, c'était important, mon cher Sloan, de voir cet aspect, cette contribution des jeunes étudiants, des jeunes artistes dans cette cérémonie. Parce que justement, on se pose la question, quel est le souvenir des jeunes d'aujourd'hui face à la guerre, face à la Première Guerre mondiale ou Deuxième Guerre mondiale? Est-ce que le monde a appris à tirer des leçons? Quand on regarde un peu toutes ces guerres qui se déroulent encore sur notre planète, la course aux armements, quand on regarde ces certains chefs d'État qui parlent à l'individualité, c'est le moi qui doit prôner. Cette guerre, je dirais, de personnalité, pour ne pas dire certains qui sont vraiment contre l'idée de ce monde global et qui parlent aujourd'hui d'un nationalisme Et d'ailleurs, j'ai bien aimé le discours, on peut être pour ou contre le président français, Macron. Il a quand même bien parlé quand il a dit, je pense que c'était une flèche envoyée au président américain, il ne faut plus parler de nationalisme, c'est dangereux. Il faut s'ouvrir vers le monde. C'est le seul moyen pour garder notre monde en paix. Encore une fois, on peut être d'accord ou pas d'accord avec la politique de M. Emmanuel Macron, mais je pense qu'il y a un vrai danger qui regarde notre planète, Madame, Monsieur, quand on regarde ces groupuscules d'extrême droite nationalistes qui sont en train de dérailler complètement tous les accords de paix, toutes les grandes conventions pour justement aider le monde à s'unir et à garder la paix. 11 novembre 2018, mon cher Sloan, jamais j'aurais cru que ce jour tomberait un dimanche et que nous marquerons l'histoire à CUTFM pour célébrer avec nos auditeurs, mais aussi les internautes sur la planète, ce jour mémorable. 1918-2018, je dis merci à tous ceux et celles qui ont répondu, qui ont réagi à notre invitation. Et oui, madame, monsieur, avant de passer à notre invité, dernier invité de la journée, le Centre francophone de Toronto nous a envoyé un communiqué. Bravo, félicitations. Le Centre francophone va offrir des services en français aux nouveaux arrivants à l'aéroport Pearson. Vous parlez français, vous voulez venir au Canada et passer par Montréal, par le Québec, mais l'Ontario, Toronto, qui sait, peut-être il va avoir des agents qui seront là pour vous accueillir. Et justement, on nous dit que le Centre francophone de Toronto a l'honneur d'annoncer à la communauté que le centre a été sélectionné par Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada pour offrir des services en français à l'aéroport Pearson, point d'entrée principal pour les nouveaux arrivants francophones. Vous parlez français? Demandez, exigez vos services en français, madame, monsieur. Afin de définir les modalités d'accueil de ces nouveaux services, le Centre francophone de Toronto organisera prochainement des rencontres dans trois villes, Hamilton, Ottawa et Sudbury. Bravo, on essaiera d'avoir quelqu'un prochainement. Et puis, quoi d'autre encore? Une première au Canada, nous avons reçu par FedEx, regardez-moi ça, ça vient de France, de Paris, de la comédie musicale, s'il vous plaît. Si vous devenez membre, vous courez la chance d'aller assister aux comédies musicales grâce à la comédie française Cineplex Canada. D'ici jusqu'à la fin de l'année, vous pouvez aussi participer à toutes sortes d'événements, des projections. Alors, une première au Canada à partir du 21 novembre, madame, monsieur, au Cineplex Canada, grâce à la comédie française Lucrèce Borgia, avec la mise en scène de Denis Podalydès, la tragédie de Victor Hugo devient puissante. Eh oui, Denis Podalydès suit Victor Hugo dans son lyrisme pour mieux descendre dans ce gouffre d'ombre qu'est Lucrèce Borgia, tragédie ambivalente et subversive, sorte de monstre, de beauté comme d'inconvenance. Un spectacle enivrant, nous dit-on, du début jusqu'à la fin. Nous recevrons prochainement la comédienne très, 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 très connue, très en vue en France à ces temps-ci, Elsa Lepoivre. Elle est sociétaire de la Comédie française. Alors, si vous voulez gagner des billets, faites vite, 86 9 86 7000, ou encore potpourri@... Et puis, ne pas oublier le concert qui promet de bouche à oreille, et Dominique Denis, qui nous donne des billets, qui était à l'émission la semaine dernière, la brésilienne, québécoise-brésilienne, Bia, sera en concert le vendredi 16 novembre, à 20h, au Heliconian Hall, 35 avenue Hazelton, à Yorkville. À ne pas rater, allez sur le site www.dbaoproduction pour de bouche à oreille.ca. Et si cela vous intéresse, allez sur notre site pour avoir tous les renseignements. C'est le potpourrishow.com. Tom. Eh oui, y a-t-il un organisme, mon cher ami Sloan, qui pourrait rassembler les marginalisés, les hommes, les femmes de toutes tendances, toutes cultures confondues, francophones de l'Ontario? C'est peut-être ma prochaine invitée, qui sait? Elle est la responsable, enfin la présidente du MOFIF. Qu'est-ce que c'est le MOFIF? Dans un instant, madame, monsieur, avec la présidente du MOFIF, c'est, qui a mission d'ailleurs hein, de travailler à la mise en place des conditions favorables pour améliorer la situation des filles et des femmes immigrantes francophones et favoriser leur intégration ainsi que leur participation active dans toutes les sphères de la société. En effet, le passage de M. William Burton à l'émission, mon cher ami Sloan, nous avons reçu quelques réactions, entre autres à des gens qui adorent Radio-Canada, qui trouvent qu'on a été un peu trop fort. Vous voyez? Outre la sensibilisation des organismes et intervenantes aux besoins des filles et des femmes immigrantes francophones, le MOFIF développe des outils pour les intervenantes, des organismes du milieu et crée et livre des formations pertinentes et adaptées. Et le MOFIF, justement, vous invite à participer à son Assemblée générale annuelle qui aura lieu le mardi 13 novembre de 17h à 22h au Collège Boréal de Toronto. Il y aura aussi une projection d'un documentaire, repas au menu, une programmation festive pour célébrer 15e édition de l'AGA du MOFIF. Et nous avons le plaisir, le grand plaisir d'accueillir, madame, monsieur, Faiza Abdallaoui, qui est la présidente du MOFIF. Bonjour Faiza, vous êtes quelque part sur la planète?
Absolument, je ne suis pas très loin, je suis à Mississauga. Bonjour et merci de m'avoir ce matin et de relayer si régulièrement nos activités. Merci beaucoup.
Oui, vous savez qu'aujourd'hui, c'est une journée historique, c'est le jour du souvenir. Et vos perspectives?
Ma perspective sur cette journée-là?
Oui.
Ma foi, vous en parliez juste avant, c'est effrayant de voir que 100 ans après, on se retrouve parfois avec les mêmes discours, avec les mêmes risques, avec les mêmes inquiétudes, alors qu'on a tous ces jeunes hommes qui sont morts donc un peu partout d'ailleurs. C'est assez effrayant. Moi, je suis j'ai été très touchée hier. C'était hier avant-hier, mon fils en fait, qui est donc dans une école publique, m'a récité ce très beau poème en anglais autour des. Alors ça s'appelle Flanders. Ah, j'ai oublié le titre. Mais je me rends compte que j'avais vraiment jamais fait attention en fait aux paroles de ces poèmes et tout est là en fait. Donc ma foi, il faut rester vigilant et surtout faut agir pour ne pas que ça recommence. Ils pensaient que ce serait la dernière guerre et puis ça n'a pas été la dernière et au contraire, il y en a eu beaucoup après. On sait aussi qu'un certain nombre de pays sont restés sous la domination pendant une cinquantaine d'années après cette dernière guerre qui se voulait être celle de la liberté. Donc je pense que oui, faut rester très vigilant et s'unir contre ces nationalismes, ces fascismes.
Et nous avons
beaucoup de travail, ouais, c'est pas fini. Hein.
Et nous avons aussi chez nous dans notre milieu ici en Ontario pour les francophones qui nous écoutent à travers la province, mais aussi à travers le Canada, il s'est passé une petite bombe à Radio-Canada. Il y a quelques semaines de cela, avec les propos dégradants de Mme Denise Bombardier. Et j'ai reçu justement ce jeune William Burton qui lance une pétition en ligne. Et ça a fait vraiment boule de neige, hein, c'est le cas de le dire.
C'est très bien. Bravo pour son initiative.
Et ce qui, moi, m'inquiète, nous avons des leaders, des porte-paroles, des organismes parapluies, comme vous les voulez. Ces gens n'ont pas pu réunir tant de personnes dans une pétition comme ce jeune homme de 20 ans. Comment expliquer le leadership chez nos leaders francophones en ce moment au Canada?
C'est une très bonne question. Combien de temps vous me donnez pour en discuter? Pour être rapide, pour être courte, je pense qu'il y a vraiment un problème effectivement au niveau des organismes quand il s'agit de communication et d'outreach. Désolée des Esmois anglophones, mais c'est souvent le cas. C'est pour ça que c'est important vraiment que chacun d'entre nous, francophones, dans ce pays, nous prenions en main ces sujets-là. Quand quelque chose nous touche, de ne pas attendre que des organismes les prennent en main. C'est à nous aussi de montrer qu'effectivement, on est concernés. Les pétitions, on en a lancé une, hein, MOFIF. Alors, je considère MOFIF plutôt comme un mouvement, vous le savez, on en avait déjà parlé, autour de la séparation des femmes et des filles. Et on avait eu, alors quand j'ai lancé ça, le sujet étant tellement touchant, donc c'était la séparation des femmes réfugiées de leurs enfants. C'était au moment d'ailleurs de tous les problèmes un peu chez le voisin du Sud avec la séparation des réfugiés de leurs enfants immigrants, etc. Et puis on s'attendait à avoir au moins assez facilement 1000 signatures, puisque le sujet touche, tout le monde peut être touché. On l'a lancé pour la fête des mères. Mmh. Et puis je crois qu'on est à un peu plus de 100 signatures. Donc vraiment, je félicite ce jeune homme, effectivement, 20 ans, qui a su utiliser les réseaux sociaux sans se limiter. Je pense qu'il y est vraiment allé avec le cœur et la passion et en utilisant tous ces outils qui sont à notre disposition aujourd'hui avec beaucoup d'efficacité. Donc bravo à lui. Je pense que ça serait intéressant qu'on s'inspire en fait de tout ça et qu'on fasse sortir un peu tous nos enjeux de nos bureaux, de nos employés, etc. Et ça se fera par la mobilisation générale. Je pense que effectivement il y a eu beaucoup de débats, beaucoup de réactions autour de ce qui s'est dit. Moi, ce que je retiens comme femme émigrante, c'est que je trouve toujours assez étonnant de voir qu'on se bat, on parle toujours de contexte linguistique minoritaire en Ontario, et que finalement, le sujet, le problème de notre reconnaissance et de notre visibilité se pose avec les anglophones, certes, mais encore avec les francophones eux-mêmes des autres régions et même du Québec.
Donc, oui, je pense que en regardant ce qui s'est passé aux midterms, les mi-mandats aux États-Unis, où on a vu des candidates, beaucoup de femmes hein, d'ailleurs, bravo, félicitations,
oui. Oh,
et
oui,
des noirs, des minorités raciales, on a vu des personnes gays, des gens de Première Nation. Incroyable,
exactement.
Ça a pris. Des fois, on a besoin d'une petite bombe comme ça pour nous bousculer dans nos habitudes. Et je pense qu'au Canada, on a besoin d'une petite révolution dans la francophonie. Peut-être ce que Madame Bombardier a fait a revigoré, je pense, cet esprit de fierté chez les francophones hors Québec.
Ouais, il faut accepter de sortir de nos zones de confort.
Parce qu'il y a trop de ces gens, y compris dans nos universités. Je parle à des professeurs, ils sont assis dans leur tour d'ivoire. Par contre, il y en a d'autres qui viennent nous aider, qui sont en train de vous écouter en ce moment, qui me posent des questions. Ah, c'est quoi le MOFIF? Mais c'est intéressant, tel ou tel. Mais c'est vrai. Et je trouve qu'il y a trop de ces leaders dans notre communauté francophone qui sont assis dans leur tour d'ivoire et qui ne sont pas sur le terrain pour savoir ce qui se passe dans nos communautés.
Certes, il y en a. Moi, je vous dirais aussi qu'étant home office maintenant depuis 4 ans, je vois quand même des échanges qui sont beaucoup plus constructifs. Est-ce qu'ils le sont tous? Bien sûr que non. J'en vois quand même quelques-uns qui sont beaucoup plus constructifs. Je vois des personnes qui s'engagent sur certains CA qui n'y étaient pas avant. Mmh. Et donc, je suis quand même assez optimiste pour l'avenir. Mais il faut accepter encore une fois de se dire ce qui ne va pas. Et puis de sortir de nos zones de confort parce que il y a une expression qui dit c'est pas en faisant toujours la même chose qu'on changera les résultats. Je crois quelque chose comme ça. Je me rappelle plus exactement de la citation. Mais effectivement, d'utiliser des nouveaux moyens et puis que les personnes comprennent tous nos responsabilités, en fait, pour ce changement et ce mieux-être.
Mouvement ontarien des femmes immigrantes francophones. Madame, monsieur, vous invite à son prochain AGA. Et donc, parlez-nous un petit peu des critères, des personnes qui pourraient assister à votre Assemblée Générale annuelle.
Les critères pour y assister, pardon ?
Mm-hmm.
Oh, ma foi, c'est ouvert vraiment à tout le monde. Nous avons plus de 65 inscrits à ce jour, donc je pense que ça sera un bon rassemblement. On va avoir un programme assez varié, donc vraiment chaque personne qui se sent touché par la mission de l'organisme, certes, mais qui a aussi envie de se retrouver avec d'autres personnes, de célébrer justement l'engagement bénévole, est tout à fait accueilli ce jour-là.
Alors, il va avoir la projection en avant-première torontoise, le court-métrage festif. Parlez-nous un petit peu de ce court-métrage. Je pense qu'il a été représenté à Ottawa déjà.
Exactement. Donc, c'est vraiment un clin d'œil, en fait, à une initiative, une première édition, en fait, qui a eu lieu à Ottawa dans le mois d'octobre et qui a été portée par Gia Mambou, qui a été consultante pour mon fils et qui a porté ce projet, justement, en tant que bénévole et qui a lancé, donc, à Ottawa, le premier festival bilingue de femmes de films réalisés par des femmes. Et vraiment, c'était superbe de voir ce projet.
Et Gia Mambou vit en Ontario?
Oui, absolument. Elle est entre Ottawa et Toronto, en fait. Donc, c'est une membre du MOFIF. Elle a été membre du CA, elle a été consultante. Et puis là, donc, on a le MOFIF a chapeauté, entre guillemets, son projet, la naissance de son projet, grâce à un financement du PAFO, donc du ministère des Affaires francophones, cette initiative qui avait été lancée par Marie-France Lalonde. Et donc, on a eu notre première édition et ça a été plus de 24 films, je crois, de mémoire, qui ont été présentés, tous réalisés par des femmes, certains en anglais, certains en français, donc sous-titrés dans l'autre langue officielle. Et ce film-là, moi, m'a touchée. J'avais fait le déplacement à Ottawa. Il nous a beaucoup plu. Il est très amusant, très festif, effectivement, mais en même temps, il aborde un certain nombre de sujets. C'est un film tunisien. D'une réalisatrice tunisienne très touchant qui représente, qui montre bien les diverses composantes de la population tunisienne et puis comment est-ce qu'une femme peut parfois être un petit peu perdue et retrouver sa féminité, en fait. Donc c'est très touchant.
Alors ouais. Il y aura un repas chaud.
Absolument, oui. Et on aura des sucreries, des salés. C'est proposé par Maison Délice, une traiteur algérienne qui est à Oakville, et par Justine de Quintessence Cake and Pastry.
Alors, vous allez célébrer en grande pompe vos 15 ans d'existence. Bravo, félicitations.
Oui, absolument. Et c'est les 15 ans officiels, puisqu'en fait, l'organisme a été enregistré officiellement en 2003, mais il existait déjà en tant que mouvement et en tant que groupe en fait, de femmes actives déjà depuis quelques années. Mais on voulait marquer ces 15 ans. Merci pour vos félicitations. Moi, ce que je retiens, c'est que souvent cet organisme, et encore aujourd'hui d'ailleurs, vendredi, on me disait « Oh, mais tiens, le MOFIF, ça survit encore, il y a peu de financement, etc. » Mais je pense que le message qu'on veut faire passer mardi, c'est que quand les femmes se mettent ensemble pour s'attaquer justement à leurs problématiques et aux choses qui les empêchent d'être le plus épanouies possible dans cette province, eh bien, ma foi, c'est ce genre de choses ne meurt pas.
Alors, je rappelle aux gens, c'est mardi le 13 novembre, donc cette semaine, de 17h à 22h, 1 rue, rue Yonge, au collège à Boréal de Toronto. D'ailleurs, les gens peuvent aller sur votre site www.mofif.ca. Et vous avez un très beau site d'ailleurs. Je pense que c'est très important d'avoir des organismes dans cette culture populaire. Vous taillez des outils sur mesure pour des organismes et des femmes, des jeunes filles de toutes les langues, de toutes les cultures, en francophonie, en Ontario. Il faut le faire avec très peu de moyens, je le sais. Et donc, merci aussi pour toutes ces batailles que vous menez sur plusieurs fronts. On vous suit sur Facebook, sur Twitter, vous êtes partout. Et bravo, vous faites honneur à la francophonie de l'Ontario. Continuez votre travail. J'espère qu'il y aura d'autres femmes qui vont imiter votre démarche parce que vous le faites, on le sent. D'ailleurs, vous donnez beaucoup de votre temps en tant que bénévole, il faut bien le dire. Vous n'êtes pas toujours rémunéré pour vos talents et vos qualités et dans vos approches. Alors, bravo, félicitations. Donc, le MOFIF vous invite, madame, monsieur, à participer en grand nombre. Vous n'êtes pas obligé d'être une femme immigrante. Hein. Si vous êtes aussi une femme née au Canada, francophone, francophile, vous pouvez aussi vous intéresser au MOFIF et vous impliquer au MOFIF, n'est-ce pas?
Oui. Que nous avons un comité d'hommes. Serge Paul, d'ailleurs, je voudrais vraiment le saluer. On le connaît, il est membre de la communauté. C'est l'agent de liaison du concert scolaire Viamonde. Il fait partie d'un de nos comités, donc... les hommes sont vraiment la bienvenue. On a eu une première initiative rassemblant des hommes justement autour du sujet des agressions sexuelles. Et on veut pouvoir continuer l'année prochaine à avoir encore plus d'hommes autour de nous parce que les solutions se montreront comme ça.
En effet. Alors, vous êtes avec moi. Nous co-animons ensemble cette émission qui... malheureusement, se clôture dans cet esprit toujours de commémoration, de souvenir. 11 novembre 2018, nous avons reçu beaucoup de réactions, beaucoup de messages. des auditeurs. Il y a une auditrice qui est ici, madame, monsieur. Elle est réfugiée et ses ancêtres ont combattu dans la Première Guerre et Deuxième Guerre. Oui. Et j'ai reçu un message vraiment extraordinaire. Merci à France 24, à Radio France Internationale, à William Burton et Sloane Ballant, DJ Devera et aussi professeur Issa Sayeg. N'oubliez pas de bouche à oreille vendredi avec Dominique Denis et la chanteuse brésilienne québécoise Bia. Et bien sûr, mon invité de marque du jour, Faiza Abdellaoui. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. Je vous dis bon dimanche et on se reparle très prochainement. Revenez-nous-en et surtout, merci de votre contribution. Je sais que vous allez nous aider encore une fois cette année pour aider la seule émission en langue française à l'antenne de CUTFM. Merci mille fois.
Je vous en prie. Merci à vous. Bon dimanche.
Au revoir. Voilà, madame, monsieur, je vous donne rendez-vous dimanche prochain. Je vous souhaite un bon dimanche, une bonne semaine. Ciao.
Ouve a minha voz, escute a minha prece. O meu coração batendo que estremece. Vem que é pra não me deixa louca. Tô com água na boca. Te quero seguro, te sinto ansioso. Te quero maduro, te sinto dengoso. Vem que é pra não me deixar louca. Que tengo água na boca. Deixa escorrer. Pode se entregar sem medo, corpo e alma. Vem que é pra não me deixar louca. Que tengo água na boca. Esta noite quero que você se deite. Que a gente se enrole, role, se deleite. Mas se eu pareço muito louca.
CIUT 89.5 FM, the station that brings you funk on Funky Fridays, Friday mornings 6 to 9 a.m.